les documents de la grenouille. Tous les podcasts des 3-8, radiogrenouille.com.
Frédéric Wiseman, du 20 au 30 novembre 2013, est à l'Institut de l'Image, pôle régional d'éducation artistique et de formation au cinéma et à l'audiovisuel, www.pole-cinema-paca.com. Au départ, tout semble simple. En quelques films, on pense avoir cerné l'œuvre foisonnante. On s'autoriserait presque à étiqueter l'auteur, peintre des institutions ou le réalisateur sociologique. Frédéric Wiseman s'amuse avec ce costume de filmeur politique qu'on le force à endosser, mais ne vous y trompez pas, Wiseman est avant tout un littéraire. En associant des sujets sociaux à des réflexions existentielles a priori antithétiques, il unit ce que la logique tend à opposer. Il nous prend en aparté et nous chuchote à l'oreille qu'il a entrevu une autre réalité. Ambiguïté, complexe et paradoxale, et nous propose le voyage. Ces quelques mots de Laetitia Miclès qui présente donc cette rétrospective Frédéric Wiseman du 20 au 30 novembre à l'Institut de l'Image. Nous avons rencontré Laetitia Miclès, réalisatrice, critique au journal Politis, qui nous dit quelques mots sur ce cinéaste Frédéric Wiseman. Laetitia Miclès, tu as pu rédiger de nombreux articles autour de Frédéric Wiseman dans la revue Positive. J'aimerais qu'on parle un petit peu de ce cinéaste. On peut en parler d'abord au niveau de ce qu'il engage. On parle de lui comme un cinéaste du cinéma direct. On parle de lui comme le documentaire autour des institutions.
Oui.
Est-ce que déjà, là, c'est pas des formes de clichés qu'on réactive quand on parle de Wiseman, cinéma des institutions, enfin, sociologie des institutions et cinéma direct?
Mais c'est pas que des clichés. C'est vrai que c'est un des... vraiment une des figures représentatives du cinéma direct, c'est-à-dire ce cinéma qui est apparu dans les années 60 et qui a pu émerger grâce à des progrès technologiques comme la caméra légère qui se tenait à l'épaule, le fait que l'on pouvait enfin enregistrer le son synchrone, qu'on pouvait enfin sortir dans la rue et pouvoir filmer aussi dans des conditions un petit peu difficiles, sans grande lumière, grâce à des pellicules qui étaient plus sensibles. Donc on pouvait aller chez les gens, il y avait une grande liberté de mouvement comme ça. Et ça, Fred Wiseman, il l'incarne et il a utilisé ce style de cinéma direct qui est donc un signe qui laisse parler les gens, qui n'intervient pas ni en posant de questions, ni en apposant un commentaire sur les images. Ça, il va le faire du début de sa carrière dans les années 60 jusqu'à aujourd'hui, parce que il continue de faire des films et il en a peut-être une cinquantaine ou soixantaine à son actif. Et c'est vrai que c'est aussi un peintre des institutions, ce qu'on dit de lui, parce qu'il s'attache aux grandes institutions américaines, comme une cour de justice pour les mineurs. Il s'est intéressé au système de sécurité sociale américain. Il est allé filmer un hôpital, il est allé filmer un hôpital psychiatrique. Titty Cut Follies, c'était son premier film qui a fait un petit scandale parce qu'il dénonçait un petit peu les conditions de vie des détenus qui étaient vraiment assez inhumaines. Et jusqu'à aujourd'hui, où comme c'est un francophile, en fait, il essaye aussi de faire des films qui lui permettent de rester en France. Donc il a tourné un film qui s'appelle La danse sur l'Opéra de Paris, et aussi sur le Crazy Horse, par exemple, sur la Comédie Française. Donc en effet, sont des institutions dans lesquelles il reste et qu'il documente un peu comme une forme de chronique. Le crazy, c'est tout Paris. Le sacré cœur. Il y a un sacré cœur dans chaque fille du crazy. Tu voyais filles du crazy comme des soldats. Ce sont les soldats de l'armée érotique.
Mais déjà ça, on sait que c'est beau.
E-E-S-I-S-I-E-S-I-S-I-E-S-I-E-S-I-E-S-I-E-S-I-E-S-I-E-S-I-E-S-I-E-S-I-E-S-I-E-S-I-E-S-I-E-S-I-E-S-I-E-S-I-E-S-I-E-S-I-E-S-I-E-S-I-E-S-I-E-S-I-E-S-I-E-S-I-E-S-I-E-S-I-E-S-I-E-S-I-E-S-I-E-S-I-E-S-I-E-S-I-E-S-I-E-S-I-E-S-I-E-S-I-E-S-I-E-S-I-E-S-I-E-S-I-E-S-I-E-S-I-E-S-I-E-S-I-E-S-I-E-S-I-E-S-I-E-S-I-E-S-I-E-S-I-E-S-I-E-S-I-E-S-I-E-S-I-E-S-I-E-S-I-E-S-I-E-S-I-E-S-I-E-S-I-E-S-I-E-
là on pense cinéma direct, on pense cinéma brut, cinéma oui. vif, où on est face à une espèce de frontalité à ce qui nous est donné. Or, il n'arrête pas de nous prendre à contre-pied. Quand il va à l'opéra pour filmer la danse, finalement il nous filme d'une certaine chose. Manière un rapport à la mort. Lorsqu'il est du côté du Crazy Horse, là on a la nudité, il nous filme quelque chose du monde des apparences et des illusions. Lorsqu'il va du côté de la boxe, là on s'attendrait à de la violence, de la testostérone, il nous filme de la convivialité, de la fraternité. Bref, cinéma direct, mais tout de même il y a une forme d'indirect quoi aussi qui se joue.
Oui, alors, en effet, il est un peu catalogué aussi comme étant un cinéaste politique, ce qui le fait un peu sourire, parce qu'en effet, il montre à la fois les mécanismes qui broient un peu les individus de ces grandes institutions, et donc, d'une certaine manière, on peut y voir une sorte de dénonciation, mais en fait, c'est peut-être plus un cinéaste philosophe, je dirais, parce qu'en s'emparant, en effet, d'un lieu... par exemple, un lieu prestigieux comme l'Opéra de Paris, en filmant le corps magnifique des danseurs et des danseuses, ensuite, en filigrane, se tisse tout une autre thématique qui est peut-être justement un contrepoint assez nostalgique et assez déchirant. Il va filmer tout ce qui a trait à la dégradation du corps, finalement. Donc si on voit une danseuse qui vient se plaindre dans le bureau de la directrice, c'est pour parler du fait qu'elle ne puisse plus faire tel ou tel type d'entrechat parce qu'elle a atteint un certain âge. Si même les chorégraphies qu'il va choisir sont toutes en relation avec la mort, le fait qu'il va filmer donc les coulisses de l'institution, c'est-à-dire les réunions syndicales, on y parle aussi de la retraite et pourquoi est-ce que les danseurs ont un régime spécial de retraite ? C'est parce que leur corps s'use beaucoup plus, c'est leur instrument de travail et qu'après après 40 ans, c'est très difficile pour eux de continuer à travailler, etc. Donc, en fait, il a l'art de choisir les scènes et de les agencer de telle sorte qu'en fait, il va traiter en filigrane sans... un peu... de façon secrète. Ces thématiques qui lui tiennent à cœur comme la mort, et je vois moi dans ces films des sortes de petits messages secrets qu'il propose aux spectateurs avertis de décrypter, et donc c'est jamais la vérité première de l'institution qui est seule signifiée dans ces films, mais il y a toujours quelque chose d'autre qui s'y cache.
3 et 4 et 1, 2, 3 1, 2, 3 et hop et top.
La spécificité aussi de ce cinéaste, c'est qu'il n'est pas à la caméra, mais il est au son.
Oui, donc il travaille en équipe très réduite. Il y a son chef opérateur avec qui il a une grande complicité. C'est toujours le même qui travaille avec lui. Et puis lui a le casque sur les oreilles et une perche. Et c'est lui qui assure le son. C'est intéressant peut-être de parler de son rapport au son aussi, de l'évolution dans ces dernières années, parce que en effet, peut-être au tout début, le son était utilisé de façon assez brute, c'était vraiment le son in. Et puis petit à petit, en fait, et notamment ces derniers films sont très ont un travail sur le de montage sonore qui est vraiment beaucoup plus sophistiqué, toujours subtil, hein, pas du tout mis en avant et qui est pas du tout quelque chose qu'il veut mettre dans les oreilles du spectateur pour montrer, regardez comme je travaille bien le son. Non, c'est quelque chose de toujours très modeste et voilà, assez humble. Mais c'est tout un travail. Je pense par exemple à une séquence dans Boxing Gym. Donc Boxing Gym, c'est l'histoire c'est un film autour d'une petite salle de boxe, comme il existe plein aux États-Unis. Et donc, c'est des habitués qui viennent de tous bords, donc de toute classe sociale. Il y a des businessmen, mais il y a aussi des chômeurs qui viennent, des hispanos, des blancs, des noirs, qui se retrouvent là. Donc, qui forment une sorte de micro-société, on dira. Et par exemple, il va filmer un homme et une femme sur un ring. Chacun s'entraîne seul, en fait. Chacun s'entraîne dans son coin. Mais en fait, il a monté de telle sorte les sons qu'on a presque l'impression d'une joute amoureuse, avec des halètements, des sons de coups, mais de coups portés dans l'air. Donc c'est assez troublant aussi de voir ça. Et il joue un petit peu sur cette ambiguïté sonore. Il en fait quelque chose à sa fin.
Tu parles d'un art de la composition brutiste.
Voilà, pour ça. Et il s'aide du mixeur Emmanuel Crozet, qui est un très bon mixeur de cinéma.
Dans quelle filiation ou communauté de cinéastes pourrait-on affilier Frédéric Wiseman? Certains disent, par exemple, je ne sais pas, Depardon dans sa manière de filmer aussi certaines institutions, mais...
Oui, non, je pense qu'en effet, il fait partie de ce groupe de cinéma direct, par exemple aussi d'autres cinéastes qui sont Richard Leacock, par exemple. On peut aussi considérer en France certains films de Nicolas Philibert pourraient aussi s'attacher à cette mouvance-là, certains films de Claire Simon également. Jean-Pierre Duret, Andrea Santana, par exemple, qui ont fait un très beau film qui s'appelle « Puisque nous sommes nés » sur des enfants dans le nord-est du Périsil aussi. Ça, c'est des très bons exemples, je pense, qu'ils aimeraient assez cette filiation-là, parce qu'ils suivent les enfants, eux aussi sont dans la non-intervention, eux aussi ils n'interviewent pas, ils ne commentent pas, mais... il donne à voir ce qui est le quotidien de ses enfants, c'est-à-dire un quotidien assez misérable, mais derrière il y a cette forme de sous-texte poétique qui a trait à la dignité de l'être humain qu'ils défendent dans chacun de leurs films. Donc ça, ce serait des bons tenants, des bons héritiers.
C'était quelques mots de Laetitia Miklès à propos de Frédéric Wiseman, une rétrospective de son cinéma du 20 au 30 novembre 2013, c'est à l'Institut de l'Image. Plus d'informations, www.paul-cinema-paca.com.
Je suis sûre, Vitya, que cette lettre te parviendra. Bien que je sois derrière la ligne du front et derrière les barbelés du ghetto juif, je ne recevrai pas ta réponse. Car je ne serai plus de ce monde. Je veux que tu saches ce qu'ont été mes derniers jours. Il me sera plus facile de quitter la vie à cette idée.
Les documents de la grenouille. Chronique, émission spéciale, sélection musicale, radiogrenouille.com.